RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Et Ali Benarabia et Ludovic Obraniak et le Grand Prix des États-Unis, ça se passe à Austin au Texas, le circuit des Amériques. Lucas Vinois et Adrien Tambay sont avec nous. Salut les gars.
Salut Nico, salut Adrien, salut à tous.
Oh, les mecs sont déjà synchro quoi. On dirait des Formule 1. Bon les gars, présentation des enjeux là de ce Grand Prix des États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qu'il y a?
Ah bah tout se joue Nico ce week-end, puisque Lewis Hamilton peut être titré pour la cinquième fois de sa carrière s'il marque 8 points de plus que Sébastien Vettel. Donc la priorité ça va être de réaliser une bonne qualification pour Lewis Hamilton. Il a déjà réalisé 8 pole positions depuis le début de la saison, 80 pole positions dans sa carrière. Vettel qui s'est montré plutôt à l'aise tout à l'heure lors de la troisième séance d'essais libres, qui était moins à l'aise sous la pluie. Adrien, je me tourne vers toi, un circuit particulier avec un virage numéro 1 où quasiment tout va se jouer pendant le week-end.
Ah oui, surtout au départ, Lucas, tu as raison, très très large ce virage et il finit en entonnoir. C'est vraiment une belle opportunité de dépassement et toujours un départ assez excitant. Et le reste du circuit est pour les pilotes très très plaisant, des virages rapides en appui, pas mal de stress sur les pneumatiques. C'est intéressant pour tout le monde et on verra si la Mercedes a caché son jeu dans l'unique séance d'essai qui s'est déroulée sur le sec, et si en qualif, ben ils vont être capables de redevancer la Ferrari de Sébastien Vettel.
En tout cas, la Q1, Nico, vient de démarrer. Aucun chrono n'a pour l'instant été inscrit. Ce sera les 5 moins bons temps qui seront éliminés tout à l'heure.
Lucas, Adrien, sachez que vous êtes ici chez vous. L'After est votre maison. S'il se passe un truc, n'hésitez pas. On est là. 9e journée de Ligue 1, on est en plein dedans. Tiens, juste vous rappeler que le Barça a battu Séville 4-2. On sera avec Fred Hermel tout à l'heure. Et que le Napoli a battu l'Udinese 3-0. Le Napoli qui sera l'adversaire du Paris Saint-Germain mercredi en Ligue des Champions. Nous, on était sur la victoire du FC Nantes. Victoire 4-0 face à Toulouse. 10e journée de Ligue 1 et non pas 9e. On va accueillir Martin, supporter nantais, qui nous a appelé au 32-16. Salut Martin.
Bonjour messieurs.
Salut Martin.
Alors Martin, t'es comment ce soir? T'es rassuré après la claque de la semaine dernière ou quoi?
Alors rassuré, c'est peut-être un grand mot, hein. C'est juste un match, mais ça fait du bien de voir Nantes jouer comme ça. Ça fait du bien de voir des buts. Moi je suis tout content d'avoir vu des joueurs vraiment au niveau, des joueurs concentrés. Moi je prends l'exemple de Giroto qui n'avait pas joué depuis longtemps, qui a été impliqué, l'exemple de Touré aussi, même de Kwateng, qui était vraiment en dessous en début de saison. Et voilà, que j'ai trouvé vraiment au niveau et vraiment, on a joué comme une équipe et ça fait plaisir.
Ali ?
Ouais, ben la différence, c'est que peut-être Vahid a réussi à fédérer cette équipe pour qu'ils jouent tous en même temps. Ils attaquent en même temps, ils défendent en même temps, ce qui n'était moins le cas ces derniers temps de Nantes, où on sentait pas que entre le coach et les joueurs, s'il y avait une compréhension. Là, peut-être que ça fait pas longtemps que Vahid est là et qu'il y a une compréhension au niveau de la fluidité de jeu, mais par contre, il a réussi à faire travailler tout le monde avec et sans ballon, et surtout mettre chaque joueur à son poste, déjà commencé par Salah. Et bien automatiquement, quand chacun joue à son poste et qu'ils essaient de travailler quelque chose le plus simple possible, peut-être que Cardozo leur demandait un jeu peut-être
plus sophistiqué
et trop ambitieux que eux ne pouvaient faire, surtout que ces dernières années Nantes n'a pas le jeu exceptionnel qu'on attendait et rechercher beaucoup plus quelque chose de simple pour pouvoir s'exprimer et attendre qu'il y ait des victoires pour pouvoir chercher une autre ambition dans le jeu.
Alors là où c'est très intéressant pour le FC Nantes, c'est que le prochain match c'est Amiens. Amiens est juste devant Nantes au classement, ils sont un point devant, alors en compagnie de Dijon et de Nîmes. Et ensuite, bon, il y aura un match de Coupe de la Ligue à Montpellier. Ce sera Guingamp, l'autre adversaire de Nantes. Ça c'est bien aussi Martin pour les Canariens.
Ouais, là c'est parfait. On est dans une période avec des adversaires abordables. Si je me souviens bien, on joue Saint-Etienne en début décembre, et puis après on a des matchs abordables jusqu'à Paris, qui est le dernier match en décembre. Donc là c'est vraiment le moment où il faut engranger des points, où il faut que l'identité du jeu se mette en place. On a les joueurs pour maintenant, c'est à veille d'harmoniser tout ça. Mais là, vu ce qu'on a vu ce soir, moi j'ai confiance pour la suite de la saison.
Voilà, tu partages l'enthousiasme de Martin, Ludo?
Je
partage l'enthousiasme de Martin, mais attention, les équipes que tu dis abordables, ce sont des concurrents directs qui aussi vont...
Ah bah c'est tout rien, c'est des matchs, les fameux matchs à 6 points.
C'est des équipes qui vont aussi jouer leur peau, donc c'est peut-être ces matchs-là qui seront le plus compliqués aussi à gérer. Mais on a pas parlé d'une chose, c'est aussi le repositionnement un peu plus haut de Rongier, qui pour moi change aussi beaucoup de choses. C'est un garçon qui a une capacité à faire jouer les autres. Alors, je trouvais que un cran plus bas, certes, il organise beaucoup le jeu, mais je le trouve, par rapport à ses qualités, pas assez influent sur le jeu. Or là, d'être positionné un cran plus haut avec deux récupérateurs derrière lui, je l'ai trouvé beaucoup plus influent, beaucoup plus rayonnant sur cette équipe. Ouais, dis-moi, Ali.
Ce qu'il aura fallu à la rigueur, c'est qu'il y ait un milieu offensif et Rongier plus bas. Mais là, étant donné que tu ne l'as pas, ce joueur-là, t'es obligé de le mettre dans ce poste.
Non, mais je trouve que Vahid a une bonne idée de mettre Rongier en électron libre. C'est lui qui peut t'apporter justement la créativité offensive dont manque le FC Nantes. Ce soir, pour moi, ce changement tactique est déterminant et a une influence sur le résultat final.
Martin, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, écoutez, continuez votre travail, c'est super. Et puis,
merci, écoute, on va essayer, mon pote. Hein.
Et vous aussi, essayez de continuer votre travail, Nantes aussi, hein, ça serait bien.
Merci beaucoup Martin, bonne soirée à toi, à très bientôt.
Bonne soirée.
Ciao, ciao Martin, on va ouvrir la page Paris Saint-Germain, le PSG qui jouait face à Amiens cet après-midi, victoire 5-0 des Parisiens. Marquinhos, Rabiot, Draxler, Mbappé et Diaby ont marqué les 5 buts du Paris Saint-Germain. Ça fait 10 victoires de suite pour le PSG. Juste une petite stat parce que celle-là elle est quand même énorme. Paris qui a remporté ses 10 premiers matchs de championnat. Si Paris remporte le prochain match, il égalera le meilleur départ d'une équipe du Big Five européen. C'est Tottenham en 1960-61 qui avait fait 11 victoires pour ses 11 premières journées. Et le prochain match du PSG, c'est face à qui en championnat? C'est face à Marseille, les mecs. On a une semaine du Classico. C'est énorme. C'est-à-dire que là, s'ils battent Marseille, ils égalent le record absolu dans les championnats du Big Five.
Accompagné du match de Naples.
Oui, moi, je parle en championnat.
On se dit vraiment maintenant, si, la preuve, tu dis c'est dans une semaine, si c'est vraiment un classico, puisqu'on n'en parlait pratiquement pas.
Alors victoire 5-0 du Paris Saint-Germain face à Amiens, supporter du PSG, on vous attend au 32-16 pour analyser cette performance. D'ailleurs, grosse performance ou pas, réponse de Thomas Tuchel, lui, il dit non.
C'est toujours un grand effort pour gagner, et c'était aujourd'hui la même chose, c'était... Pas une grande performance de nous, mais très très sérieux. Et nous avons travaillé dur comme une équipe. C'était un effort collectif.
Voilà, il dit pas que c'est une grosse performance, hein, Thomas Tuchel.
Ouais. J'étais au parc.
Et alors?
C'est pas une grosse performance. Mais au moment où tu es à 2-0, ou d'un coup Pelletier, le coach de Amiens, se dit.
Hein? Pelletier, c'est Nicolas Pelletier, c'est le mec qui nous aide à préparer nos éléments dans l'after.
Pélissier se dit qu'à 2-0, je vais être un peu plus offensif. C'est peut-être l'erreur à vouloir être trop vite offensif. C'est là où le Paris Saint-Germain s'est créé les plus grosses occasions. Ils en ont pris 3 buts d'affilée. Mais par contre, cette équipe de Paris Saint-Germain, elle a énormément géré parce qu'Amiens était très faible. Et par contre, le fait d'avoir à la fois Marquinhos et Rabiot et Di Maria dans cette équipe, ça te permet de tourner autour de toi facilement et que tout se passe très bien, parce que même Mbappé ne fait pas du tout un beau match spécialement. Il a joué pratiquement tout le match, mais il n'a pas apporté. Cavani non plus du tout, mais ça te démontre que cette équipe du Paris Saint-Germain, comparée à avant où il fallait que pratiquement tout le monde soit au moins assez bon, pas exceptionnel, pour gagner les matchs, cette équipe du PSG cette année n'a pas besoin d'être très bon, puisqu'elle a des joueurs. Rabiot qui a encore été énorme, qui fait pratiquement tout. Verratti qui a pas eu besoin de jouer tout le match pour faire la différence dans le jeu.
Donnons d'ailleurs des nouvelles. Il a été sorti à la pause, touché à la cuisse. Thomas Tuchel a expliqué qu'il l'avait sorti par précaution, mais il se veut confiant pour le match de Ligue des Champions mercredi face au Napoli.
Oui, parce que cette équipe du Paris Saint-Germain sera très bonne avec Verratti, avec un bon Verratti. Et je pense que pour passer la Champions League, si tu n'as pas un très bon Verratti et qui plus est, ce qui serait bien, c'est qu'il arrive à 100% à ces fameuses dates de mois de mars, c'est surtout ça, parce qu'habituellement on l'a jamais. Donc ça serait bien de le protéger pour qu'il soit prêt au moment important, et peut-être pas dans les matchs championnats où on n'a pas besoin de Verratti.
Ça fait presque bizarre de dire qu'une équipe gagne 5-0 et que finalement elle fait pas une grosse perf, Ludo.
Non, mais c'est habituel avec Paris. Paris joue à sa main, maîtrise ce championnat de Ligue 1, de la tête et des épaules. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de mettre l'équipe type pour pouvoir dominer une équipe qui sera entre la dixième et la vingtième place. Donc, il y a des satisfactions, il y a des joueurs qui, pour moi, suscitent certains doutes, notamment Verratti. qui est constamment blessé tout le temps, un match sur deux, un match sur trois. C'est, ça devient un vrai point noir dans cette équipe, d'autant qu'il est, il est très influent.
Il est trop important.
Quand il est là et quand il est pas là, le milieu de terrain est complètement différent
équipe.
Du côté du Paris Saint-Germain. Di Maria qui en profite pour faire deux passes dé, qui se relance un peu. Draxler, on lui donne du temps de jeu. Bon, Mbappé qui revient de d'une campagne équipe de France un peu fatiguée. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est de sur 5 buts du Paris Saint-Germain, c'est de pas avoir marqué Edinson Cavani. Certes, on peut passer un peu sous silence ou mettre sous le tapis ce qui s'est passé lors de sa sortie avant l'entraînement international, mais je suis sûr que c'est quelqu'un qui est sensible, qui prend les choses à cœur, et il a dû être impacté par ça. Et tu le sens. Je sens que peut-être cet événement aura une incidence. J'espère pas pour le Paris Saint-Germain, mais sensible comme il est le garçon, je pense que ça peut avoir une incidence sur les matchs à venir. Donc voilà, il faut redonner de la confiance, du temps de jeu à certains. Paris Saint-Germain s'en sort bien, mais en maîtrisant. Donc Tourelle ne peut pas être entièrement satisfait.
C'est bien.
Mais Kerrer aussi, Kerrer qui quand il joue
à très bon match par contre.
Je l'ai trouvé
dans l'axe.
Je l'ai trouvé très en dedans avec l'équipe d'Allemagne, mais encore une fois, on le met peut-être à des postes où il est pas forcément à l'aise. Là, je l'ai trouvé à son poste, plutôt à l'aise avec Marquinhos.
Il était très bon.
Voilà, ça c'est une bonne surprise. Nkunku à droite, bon, pareil. Non, je suis pas sûr que ça soit
passé au travers dans ce match-là.
L'avenir pour lui, mais la confirmation aussi du petit Diaby qui devient
qui a fait une bonne rentrée.
Un prétendant à être susceptible d'être changé en cours de match, parce qu'à chaque fois qu'il rentre ou qu'il joue, il est performant et décisif.
On va accueillir Damien, supporter du Paris Saint-Germain, qui nous a appelé au 32-16. Salut Damien.
Bonsoir After.
Salut,
bonsoir
Damien.
À tous les éditeurs.
Salut Damien.
Alors Damien, est-ce que comme Thomas Tuchel, tu partages le fait que finalement c'était pas une grosse perf du PSG cet après-midi face à Amiens, malgré ce 5-0?
Effectivement, enfin, on a géré le match. On peut pas dire qu'on a fait une performance exceptionnelle, mais maintenant il y a 5-0. J'ai envie de dire, c'est quoi une grosse perf? Quand on met 5-0 à une équipe, ça reste une performance qui est intéressante. Surtout qu'il avait fait quand même pas mal tourner. Moi, je trouve que la rotation de Tourelle, elle est très intéressante. Parce qu'au-delà de faire rentrer des jeunes, il leur donne vraiment un vrai temps de jeu. Ce que faisaient pas forcément Blanc et Emery. Donc pour l'instant, moi, ça j'apprécie. J'apprécie énormément de voir le petit Diaby régulièrement. Il y avait même des jeunes joueurs qu'on avait vus en début de saison, comme Bernet, qui était très intéressant. C'est dommage qu'on les voit plus trop. Mais forcément, quand tout le monde est là, ben ils n'ont pas forcément leur chance. Mais c'est une rotation qui est intelligente, qui est intéressante et qui pense qu'il portera ses fruits au moment opportun, c'est-à-dire au mois de mars, parce qu'on sait très bien que ce sera là que sera joué le PSG. Après, il a été intelligent aussi avec Rabiot, je pense, parce que Rabiot l'année dernière, il voulait pas jouer dans un système en 4-2-3-1, sauf qu'avec tous les joueurs offensifs qu'on a, à un moment donné, on est obligé de faire des choix. Et c'est plus simple pour Tourelle d'aligner un 4-2-3-1 avec un joueur en numéro 10 qui est plutôt libre que d'aligner un 4-3-3 avec des joueurs pas à leur poste, une sentinelle qu'on n'a pas forcément à part la Sanadiara. Donc non, je trouve que Tourelle est très très intéressant et très intelligent dans ce qu'il fait pour l'instant.
Et Tourelle est très important dans le sens où il implique
tout le monde.
Il implique le groupe. L'année dernière, tu pouvais compter sur 12, 13 joueurs. Aujourd'hui, tu as une palette de 16, 17, on peut même aller jusqu'à 20 joueurs qui se sentent concernés par les objectifs du Paris Saint-Germain. Ce qui est aussi assez surprenant, c'est qu'on avait été séduit au début. Le match de Liverpool est arrivé un peu, on a pris un coup derrière la tête, mais que Tourelle arrive à chaque fois à nous remettre l'eau à la bouche. C'est quelqu'un, moi, qui me donne envie d'aller regarder le Paris Saint-Germain et qui me donne surtout envie de voir ce qu'ils vont être capables de faire contre Naples et contre Marseille. C'est déjà une étape pour lui. Il a raté la première, mais il garde malgré tout la confiance de tout le monde. Donc je l'attends vraiment là sur ces deux matchs-là. Il y a un virage important pour le Paris Saint-Germain, je pense déjà.
Juste quand même un petit mot, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours, de l'histoire de Cavani. Alors il l'avait sorti lorsque Kim Dembe avait pris le rouge face à l'OL. Il l'a défendu en conférence de presse cette semaine. On commence à se demander à Paris s'il faut le prolonger, parce qu'il a déjà un certain âge aussi. Il n'a pas marqué Cavani cet après-midi face à Amiens. Damien, je vais te poser la question à toi, mais est-ce que tu comprends, toi, les débats qui existent dernièrement autour d'Edinson Cavani, justement?
Oui et non. C'est-à-dire que Cavani, on peut jamais rien lui reprocher parce que il marque but sur but, il est toujours impliqué, il défend comme un beau diable quand il perd le ballon. Enfin, c'est dur de critiquer un joueur comme Cavani au PSG. Malgré tout, on sait que dans le style de jeu de Neymar, Mbappé, c'est pas forcément l'attaquant technique qu'il nous faut. C'est un vrai débat. On sait qu'aussi, à des moments donnés, quand il y avait des grands joueurs autour de lui, comme Zlatan, par exemple, bah, il, des fois, il assumait pas forcément quand on, il avait les clés de la maison. Je me rappelle du quart de finale contre Chelsea où il était dans l'axe, Zlatan était blessé et il avait raté deux occasions énormes qui auraient pu nous qualifier. Enfin, voilà. Donc, moi, je trouve que quand il y a des grands joueurs autour de lui, Cavani, c'est pas vraiment l'élément central de l'équipe. C'est un peu plus compliqué parfois. Il faut qu'il se remette dedans. Maintenant, c'est un joueur qu'on peut pas critiquer au PSG et il fait tous les efforts. Il est pas pour le club.
Mais par contre, tu oublies que c'est un grand joueur, il sait pas qui joue à côté de grands joueurs. Et dans les gros matchs, celui qu'on voyait, c'était pas Zlatan, hein, c'était à chaque fois Cavani. Et je pense qu'encore cette année, au moment où il y aura les gros matchs.
Ouais, mais quand Zlatan était là, c'était Zlatan la tête de gondole, Ali.
La tête de gondole.
Oui, mais bon, il marquait but sur but aussi Zlatan quand il était.
Ah oui, il arrêtait pas de marquer. Mais dans les matchs importants ou les gros matchs, c'est qui marquait? C'était Cavani, c'était pas Zlatan. Et cette année encore, je pense qu'au moment où ça va être dur, où ça va être chaud, celui qui sera présent comme avant-centre, parce que ni Neymar ni Mbappé sont avant-centre, loin de là. La preuve en est, c'est que Mbappé, tout aussi fort qu'il est, aujourd'hui au Parc, il n'a rien fait. Il a réussi à marquer un but, mais il n'a rien fait du tout. Et le problème, quand on entendait parler de Rabiot, avec ce système, avec Verratti, Rabiot à 2-3-1, le problème, c'est que Mbappé ne sait pas du tout défendre. Et quand tu vas jouer...
C'est pour ça peut-être qu'il serait mis dans l'axe, non?
Qui?
Bah, Mbappé.
Non, il n'est pas en centre. Mais il va falloir qu'il apprenne à défendre, parce que pour gagner le Salah, le Sadio Mané et le Firmino, ils savent défendre tout le temps dans les gros matchs. Et le problème, c'est que Mbappé ne sait pas défendre.
Les gars, on va prendre un virage. Nous aussi, on va repartir du côté d'Austin au Texas. Grand Prix des États-Unis, Lucas Vinois, Adrien Tambay. Je crois que c'est la fin de la Q1, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il reste 1 minute 30 dans cette Q1. Premier meilleur temps de la part de Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas. Les deux Mercedes, les deux Ferrari et les deux Red Bull. Très belle performance, Adrien, pour l'instant, de Romain Grosjean, 7e, qui a réalisé le meilleur temps absolu dans le premier secteur.
Oui, du fuchsia dans le premier secteur pour Romain, qui a réussi à aller aussi vite que les Mercedes dans celui-là.
C'est incroyable, quand même.
Ensuite, c'était un peu plus compliqué, hein, sur le reste du tour. Peut-être des soucis avec ses pneumatiques pour garder, voilà. Il a réussi à utiliser le grip, le pic du pneumatique neuf, mais ensuite sa monoplace ne lui permet pas de garder la performance tout au long du tour. Et en ce qui concerne les Mercedes, la vraie performance, elle est là de nouveau. On cachait un peu son jeu en essai libre 3. On est bien là avec Lewis Hamilton qui a presque 4 dixièmes d'avance sur Valtteri Bottas. C'est assez déconcertant.
Ouais, c'est vrai qu'il y a encore une grosse avance pour Lewis Hamilton, notamment Lewis Hamilton aussi par rapport à Sébastien Vettel. 4 dixièmes d'avance. On sait que Sébastien Vettel sera pénalisé de 3 places sur la grille pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeau rouge. C'était lors de la première séance d'essai libre. Grosse déception aussi pour Max Verstappen, Adrien, qui vraisemblablement voit sa qualification terminée, avortée à cause d'un problème mécanique.
Oui, pour Max Verstappen, on a vu un ralenti. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé sur la Red Bull, mais en tout cas, oui, une grosse déconvenue sur un circuit que Max apprécie tout particulièrement et où les dépassements. Bon, il aura une belle course à faire demain et je pense beaucoup de spectacles à voir dimanche soir.
Ça y est, le drapeau à damier qui s'est abaissé sur cette Q1. Esteban Ocon en 13e position qui franchit la ligne à l'instant même et qui se met à l'abri. 7e temps, 1:34,876 pour Esteban Ocon. Fernando Alonso qui coupe la ligne à l'instant même. 13e temps pour l'instant. Fernando Alonso passerait en Q1 avec son temps de 1:35,294. C'est Charles Leclerc maintenant qui est 15e et qui risque d'être éliminé dès la Q2. Ça ne passera pas en tout cas pour Stoffel Van Dorn. 17e, Marcus Ericsson, 19e est en amélioration personnelle. Est-ce que ça va suffire? Il croise maintenant la cellule. 15e, Marcus Ericsson, virtuellement qualifié, mais attention, il pourrait se voir éliminer. Hülkenberg qui revient à 9e, 1:34,932 pour Nico Hülkenberg. C'est Charles Leclerc qui était en difficulté,
non,
mais qui
bon.
Remonte,
ouais, 10e.
Ocon est 7e, Grosjean 8e, 11e Leclerc, Gasly 13e. Ça va passer pour l'ensemble des tricolores du plateau.
Merci les gars, très bien. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, et on y sont bien là, les Français là, non?
Ouais, ah bah oui, tous en Q2, donc c'est parfait.
Tiens, on est en Q2, les mecs. On est en Q2, les gars. Champion du monde.
Vivement la Q3.
Ça va dire, mon gars, tout à l'heure, bien entendu, ce sera dans l'after, bien sûr. On remercie Damien, supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16. Merci Damien. Bravo pour la qualité de tes analyses. On sera avec Gilles, autre supporter du Paris Saint-Germain. On vous rappelle que le PSG s'est imposé 5-0 face à Amiens cet après-midi. On vous pose la question. Grosse perf ou pas du PSG? Qu'est-ce que vous avez aimé? Peut-être qu'il y a des choses que vous avez moins aimées aussi du côté du Paris Saint-Germain. On attend vos réponses dans quelques instants avec Ali Benarbia et Ludovic Obraniak dans l'after. À tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Et Ali Benarbia et Ludo Obraniak et Lucas Vinoy et Adrien Tambay qui sont avec nous parce qu'il y a le Grand Prix des États-Unis à Austin au Texas. Tu te rappelles les gars de la hiérarchie là après la Q1?
Qui a réalisé le meilleur temps du côté des Français. Ça passe pour Pierre Gasly, 7e Esteban Ocon, 8e Romain Grosjean, 10e et Charles Leclerc, 13e du côté des éliminés. Fernando Alonso, Sergei Sirotkin, Lance Stroll, Marcus Ericsson et Stoffel Van Dorn. La Q2 qui va débuter dans quelques minutes.
Voilà, ça se passe bien pour l'instant les gars. Vous êtes content? Est-ce que vous êtes content?
Et on ne sait pas si Max Verstappen va pouvoir participer à la Q2. On a vu un problème à la suspension arrière droite. Ça peut venir soit de la roue, soit de la suspension en elle-même. Si c'est la suspension, ça sera mort pour la qualif.
Attendez, parce qu'on est quand même dans l'afterfoot. Est-ce que vous êtes fan, je sais pas, ou d'un pilote ou d'une écurie de F1? Vous savez que les footeux, nous, on kiffe des joueurs, des équipes, des... Ouais.
Moi, je suis encore en activité un peu, donc je m'efforce de pas...
T'es fan de toi, quoi, c'est ça?
Ouais.
Je suis fan d'Adrien Tambay.
C'est le Jérôme Bretagne de la F1, quoi.
On peut pas être fan,
je sais pas,
être fan de sportifs de mon sport.
Non, mais il y en a qui kiffent, par exemple, la Ferrari.
J'apprécie des hommes, je préfère des hommes plus que d'autres, mais à la limite, en dehors de la voiture.
Elle est chelou, ta phrase, c'est ouf, hein.
Non, mais... Dans leur attitude, j'ai des exemples quelque part, mais je suis pas fan de tel ou un tel. Ah, Lewis Hamilton cette année. Obligé.
Par exemple, ouais. Obligé. Je sais pas, y a pas des mecs. Je sais pas, moi Senna me faisait rêver quand j'étais gosse, par exemple.
Moi, Michael Schumacher m'a fait rêver quand j'étais gamin. Et puis un jour, j'ai passé l'âge d'être fan.
Oh putain, c'est beau, Lucas. Vas-y, vends du rêve, Lucas.
Moi, je suis fan d'Adrien Tambay, mais
tu le caches bien alors.
C'est une autre. Non. Après, il y a certains pilotes, oui, qui peuvent nous impressionner. C'est sûr. Lewis Hamilton est impressionnant. Il fait jamais d'erreur.
Attends,
c'est
moi,
plus
quand
rapide.
J'étais gosse,
il est incroyable.
Y avait les pro Ferrari, les Antifa. C'était comme ça, quoi.
Mais c'est toujours comme ça. Toujours comme ça.
Oui, c'est toujours comme ça, mais on prend de la distance quand on travaille dans le milieu, et puis il faut pas être fan, il faut mecs, essayer, tu le sais, Nico, tu sais.
Non, mais façon de parler, tu vois. Tu vibres plus, je sais pas,
Ils adorent Peugeot.
Ah, si tu veux, moi j'aime bien Fernando Alonso, donc je souffre un petit peu depuis quelques années, quoi. C'est un peu compliqué, quoi, mais bon, c'est comme ça, mais il faut reconnaître que les performances des autres pilotes, Lewis Hamilton cette année, c'est incroyable. Franchement, il a une voiture un petit peu moins bonne que celle de Sébastien Vettel au début de saison, il a réussi à rester collé au classement et même à passer devant, et puis il va remporter un 5e titre, 5 titres de champion du monde, c'est quand même incroyable.
Bah voilà. Bon, merci les gars. Voilà, je voulais juste faire rêver un peu les gens. Voilà, parallèle foot Formule 1.
Rien à voir. C'est un ami, mais je suis un peu fan de Charles Leclerc. On verra ce qu'il va faire l'année prochaine, mais je pense que c'est un futur grand. Enfin, j'en suis sûr.
Bon, voilà. Et il a tourné la cause à lui.
On retourne du côté du foot. On était sur la performance du Paris Saint-Germain qui s'est imposé 5-0 face à Amiens cet après-midi. Et on était avec Damien. Damien, je t'ai dit au revoir, mais je voulais faire les choses bien, Damien. T'es toujours là?
Ouais, merci.
Qui est Damien?
Bah, Damien, le supporter du PSG qui était avec nous tout à l'heure. Tu crois que c'était Damien qui?
Je crois qu'il était Damien.
Oh putain, c'est drôle ça. Non, remarque, c'est pas con ça.
Ouais,
ça aurait pu être drôle. Damien de Paris.
Je suis pas loin Damien. Je suis pas loin Damien.
Putain, je comprends plus rien. Tu t'appelles comment?
T'habites pas loin Damien?
J'habite dans l'Oise.
Ah bah voilà, t'es où?
À Crépy-en-Valois.
Où ça?
Crépy-en-Valois.
Oh, laisse tomber. Vas-y, on va dire que t'es Damien, c'est plus facile.
À l'époque, je
n'ai rien compris. On était sur le débat de Cavani, Damien. Tu disais, on t'a coupé du coup.
Non, je disais que Cavani, enfin à un moment donné, on peut pas lui en vouloir, on peut pas lui reprocher d'avoir des coups de moins bien, des coups de mou, parce que tout le temps il se bat. Aujourd'hui, j'ai encore vu perdre des ballons, de faire l'effort d'aller récupérer. Là où, par exemple, on disait Mbappé, il sait pas défendre, bah Cavani, lui, il le fait. Alors oui, effectivement, des fois il est un peu moins bien, mais comme l'a dit Ali, je pense que sur les gros matchs, il sera là à la réception des ballons de Neymar, de Mbappé, il sera là pour conclure. Quand c'est un ballon qui traîne dans la surface, il sera là également. Donc non, enfin Cavani, il a le mal-être, on comprend, parce qu'il aimerait être la grosse star de l'équipe, sûrement, et je suis sûr qu'au fond de lui, c'est ce qu'il veut être. Mais il a un peu de mal parfois à partager la vedette, et quoi qu'il arrive, il fait toujours les efforts. Et il vaut mieux qu'il ait son coup de moins bien maintenant qu'il l'ait au mois de mars-avril, quand ça va être une phase décisive.
Non, c'est surtout que mal-être, quand t'es avant-centre, ce qui t'intéresse surtout, c'est de marquer des buts. Et aujourd'hui, c'était beaucoup plus un entraînement qu'un match pour lui, dans le sens où les occasions qu'il a juste à pousser à un mètre du but, ben, s'il est vraiment dans le mal-être, ça lui aurait fait beaucoup de bien. Et en avant-centre, il est bien que quand il marque des buts, surtout le style Cavani. Ben là, il a eu les occasions, il a eu les espaces, il a pas mis. Donc il devrait surtout se focaliser sur son travail personnel à lui devant le but, c'est ce qui va lui permettre d'être prêt.
Ouais, enfin, il y a quand même, tu parles de mal-être, c'est un garçon qui est ultra sensible, on le voit, il est
Alors, il être seul aussi.
Hiérarchiquement, il est peut-être numéro un dans le cœur des supporters parisiens.
Oui.
C'est, je pense, le cas. Par contre, au niveau de la direction, je suis pas sûr, et même au niveau du staff du Paris Saint-Germain, je suis pas sûr. Quand tu vois quel attaquant il faut sortir dans un moment décisif où il faut faire un choix, il faut trancher, et ben, c'est Cavani qui sort en premier. Donc, il est derrière les deux autres.
Oui, mais ça peut être pour des aspects tactiques, tu vois, de profil.
Cherche pas, c'est comme ça. Il est derrière les deux autres au niveau de l'organigramme Paris Saint-Germain, c'est le troisième larron. Parce que au niveau de la plus-value, au niveau de plein de choses.
Non, tu, si tu dois deux qui s'entendent si tu, sur les
déjà,
trois,
premièrement, c'est ça aussi. Et si tu dois faire en termes de rentabilité, puisque c'est ça finalement,
ouais, c'est Neymar, Mbappé.
Ça rentre en compte, c'est Neymar, Mbappé et lui en troisième.
Merci. Merci Damien d'avoir été avec nous.
Merci Nico.
Bonne soirée, à bientôt. Salut Damien. Ouais. Je vous donne une petite info également qui concerne Bernat. Alors vous savez qu'hier, au Lyonnais, le président du Bayern l'avait littéralement découpé, Bernat, en disant en gros, bon débarras, on avait failli se faire éliminer contre Séville la saison dernière avec le Bayern et c'était à cause de lui. Réponse aujourd'hui du néo-parisien, c'était en zone mixte. Je ne souhaite pas répondre par respect pour les dirigeants du Bayern. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas. Je ne souhaite pas réagir à ses propos. Voilà, il a joué la chose assez intelligemment, Bernat. Il a été sévère, Honest, hein, quand même. Hein.
Les Allemands, en général, tu sais, ils prennent pas de gants quand ils disent un joueur, il est bon ou il a pas apporté. Tu peux les critiquer.
Ça dépend qui.
Non, la plupart des.
Ali. Il y a des mecs qui découpent en France, il y en a qui découpent en Allemagne. Il y a des mecs
en France. qui découpe, soit on en a eu des journalistes ou des anciens joueurs qui se focalisaient sur un joueur parce que ça se passait mal, mais en Allemagne surtout ça a été toujours clair. Je pense que si pour eux et surtout Lienès est bien placé, il en a vu des joueurs et a recruté des joueurs, si pour lui Bernat ne lui a rien apporté, ça veut dire qu'il lui a rien apporté. Et moi quand je le vois encore ce soir Bernat et qu'on a Nsonki, je crois qu'il est blessé ou qu'il va revenir, je préfère garder Nsonki arrière-gauche que ramener un Bernat. Je suis désolé.
Très bien. Merci, merci en tout cas, Ali. Merci encore à Damien qui nous a appelé au 32-16. Messieurs, on va filer à l'étranger. On va filer en Espagne et en Angleterre. On va commencer par l'Espagne avec Fred Hermel. Le Barça a battu le FC Séville 4-2. Alors, c'est un match important, match au sommet. Le Barça qui est leader de Liga, du coup, avec cette victoire, qui passe devant Leganés. Vous savez que Leganés, qui avait tapé le Celta hier, eh bien, avait pris la tête de la Liga. Il est là, notre Fredo, ou pas?
Hola chicos.
Comment est-ce que
Fredo?
Bien, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour les supporters du Barça.
Donne-nous des nouvelles de Messi qui est sorti touché au bras justement.
Il sera pas là.
Fracture. Fracture du radius, 3 semaines d'arrêt.
Oh, tant
c'est officiel, il y a 3 minutes que le Barça a communiqué cette information. Il est mal retombé. Alors au début on a cru à une luxation du coude, qui était pas mal non plus dans le genre. Hein. Je me demande même si une fracture du radius c'est pas un peu moins grave qu'une luxation de l'épaule. Au moins voilà, c'est cassé, ça se remet. A priori il y aura pas d'opération. Allez, c'est pas une fracture avec déplacement, mais ça veut dire qu'il manque un match très important ce dimanche prochain.
Que un match.
C'est un Barça-Real. Il manque le Barça-Real.
Il y a l'Inter en Ligue des Champions.
Mais le classico Barça-Real le dimanche.
Et puis une fracture, c'est combien de temps là au moins?
Et là, le Barça officiel, 3 semaines.
Ouais, minimum.
Le Barça dit 3 semaines. Et en général, les médecins, ils préfèrent plutôt prévoir large en général, quoi.
Mais attends, Fredo, du coup, ça veut dire que dans une semaine, on aura un classico. Il y aura ni Cristiano Ronaldo, ça on le savait depuis un moment, ni Léo Messi. Ça a pas dû arriver depuis un moment, ça.
Ah oui, ça fait un petit moment, oui. Oui, parce que Cristiano Ronaldo a passé 9 ans au Real Madrid et Messi était déjà là avant. Donc,
est-ce que ça va être aussi intéressant que ça, Fred, ce classico du coup, sans Messi, sans Ronaldo?
Mais tout le monde sait très bien que le Real et le Barça sont nés avec Messi et Ronaldo.
Non, ça non, mais je veux dire, est-ce que ça va être aussi intéressant?
Bien sûr que
Un Real qui joue pas trop bien, un Barça.
Justement.
Il y a mini cri,
ça va être quoi, équilibré?
Mais c'est, je sais pas si ça va être équilibré, c'est qu'on va. Mais c'est, tu sais, le problème, c'est que réduire le Real et le Barça à Messi et Cristiano, c'est une grave erreur. C'est quelque chose qui a existé.
Pas réduire. En ce moment, Fred, c'était surtout.
Le Real, Messi, Ronaldo.
On tourne autour du pot. Mais qu'est-ce qui se passe à Madrid, Fred? C'est ça qu'on veut savoir.
On l'a dit à début de saison.
Alors, on va y venir. Attends, Fredo, bouge pas. D'abord, restons un peu quand même sur ce Barça-Séville. Ouais, c'est un match qui est quand même important. Victoire 4-2. Le Barça, qui allait pas bien. Non plus ces derniers temps, qui était face à une équipe qui était en tête de la Liga au coup d'envoi de cette journée. C'était comment comme match d'ailleurs? Ça a été maîtrisé par les Barcelonais?
Attends, s'il n'y a pas un gardien mais extraordinaire qui s'appelle Ter Stegen, le Barça peut même perdre ce soir. C'est hallucinant ce qu'il a fait. Mais vraiment, Au sens, c'est la journée des gardiens. Entre Hoyer, le gardien d'Evante, Oblak, le gardien de l'Atlético, et Scafé Ter Stegen. Mais je vous demande de voir les images. Il y a devant un double arrêt, pour sauver le 3-2. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Vraiment. Et le niveau des gardiens en Espagne en ce moment est extraordinaire. Et
sauf en sélection,
ouais. Sauf en sélection, bah oui, mais on prend pas les mecs qui jouent en Espagne, donc mais c'est hallucinant. C'est Ter Stegen. Cet après-midi, je disais, mais il y a pas meilleur au monde qu'Oblak, et ce soir, je dis, mais Ter Stegen, il y a pas meilleur que lui. Enfin, c'est fabuleux. Et d'ailleurs, tous les joueurs du Barça sont allés embrasser Ter Stegen à la fin de la rencontre pour dire, oui, il y a quelque chose de, il a fait quelque chose de grand ce soir, quoi. Donc c'est ce Barça dans le jeu a pas été génial. Et puis Dembélé sifflait à plusieurs reprises, les amis. Parce
oui,
qu'il est entré à la place de Messi, bah, il a perdu des ballons, il a fait de mauvais choix, il a manqué deux belles occasions, surtout un super contre. Voilà, il était de nouveau remplaçant, hein, c'est-à-dire que les trois derniers matchs, il a été remplaçant d'Embélé. C'est quand même dingue.
Alors qu'il avait fait un bon début de saison, c'est bizarre.
Ouais, bah oui, bien sûr. Il avait été décisif dans, notamment dans la conquête de la Supercoupe d'Espagne contre le Séville. Mais, ouais, c'est compliqué. Mais, cette Liga, elle est folle. De toute façon, elle a jamais été aussi équilibrée. On peut rien parier sur rien. Enfin, c'est, ou alors, on prend des risques sur tout parce que tout est possible. Et c'est passionnant. Vraiment, c'est, pour moi, c'est le championnat le plus passionnant que je, depuis des années, quoi.
Fred, elle a jamais été aussi équilibrée ou,
jamais
les gros, jamais été aussi aussi en difficulté depuis un moment.
Alors c'est vrai que là on a quand même un Real Madrid qui va pas bien.
Alors parlons-en le Real. Mais, donc non,
mais,
on va le faire.
Mais c'est aussi parce qu'elle est beaucoup plus équilibrée qu'avant pour les raisons que j'évoquais hier, c'est-à-dire ouais. la une DNCG très très puissante et puis une mutualisation des droits qui réduit les différences de budget.
Alors le Real recevait l'Evante cet après-midi, défaite 2-1, troisième défaite de suite pour Madrid, cinquième match en victoire. Alors le Real a marqué mais après la 55e minute, Lopetegui a donc battu un record avec le Real, celui d'impuissance offensive, parce que le précédent record c'était 464 minutes d'affilée sans marquer, ça datait de 85.
En fait, j'en ai un autre. En fait, c'était un peu plus, donc c'est le deuxième record, c'est le deuxième.
On en trouve un autre, du coup.
Voilà. Non, c'est simplement As a sorti ça.
D'accord.
Mais de toute façon, c'est catastrophique quand même.
Hein, alors parlons parce que alors moi je disais tout à l'heure là, je voyais que il y avait pas mal de médias en Espagne qui disaient qu'il y avait une réunion d'urgence entre les dirigeants du Real et Lopetegui. Il y en a même certains qui annoncent que Lopetegui, en gros, il fait le match mercredi contre le Victoria Pilsen et qu'après c'est terminé.
Mardi. Non, mais c'est-à-dire que mais je peux pas vous garantir que Lopetegui va pas être viré demain. Hein. C'est-à-dire que ce soir, le président n'a pas pris sa décision. Voilà. Quand il va se réveiller demain, il aura peut-être changé d'avis. Hein.
Quels sont les prétendants potentiels?
Le premier, c'est Solari, Santiago Solari, le coach de l'équipe B du Castilla, pour un intérim d'une semaine. En attendant, Conte Jardim, sont les noms qui reviennent le plus. Parce qu'il n'y a pas, tant de grands coachs comme ça qui sont libres en ce moment. Donc, mais Solari pour l'intérim, c'est d'ailleurs ce que certains dirigeants essayent de pousser veulent pousser Cristiano Ronaldo, Florentino Pérez à Lopetegui que c'est terminé. Alors c'est vrai que les joueurs, Ramos a parlé avec le président, il est très puissant, il a transmis un message positif. C'est vrai que sur le terrain, on n'a pas vu des joueurs qui voulaient faire virer leur coach. Ils n'ont pas été super motivés quand même s'il y a quand même 15 corners, 14 tirs cadrés, 3 montants. Mais c'est plus lié à l'apathie générale, au sentiment d'impuissance qu'il y a depuis quelques semaines dans cette équipe, qu'au fait que ce sont pas des mecs qui ont lâché leur coach. Et ça, si Lopetegui reste, en fait, c'est tout simplement pour une raison de calendrier qu'il y a un match ultra important contre le Victoria Pilsen. Oui, c'est ultra important parce que le Real a perdu à Moscou contre le CSKA il y a 3 semaines en Ligue des Champions. Ce qui fait que cette rencontre de C1 de mardi, elle est décisive. Et il n'y a pas assez de temps pour se retourner finalement.
Mais on est d'accord, c'est terminé de toute façon, Fred.
Ah mais moi je vois pas comment il peut continuer. Ouais. Mais de toute façon il est usé. Moi je l'ai vu en conf tout à l'heure.
Quelle désillusion pour le brillant entraîneur qu'est Lopetegui.
Le brillant sélectionneur. Ça a jamais été un brillant entraîneur.
Ouais, mais je trouve que c'est quelqu'un de brillant. Après tu peux dire entraîneur.
C'est pas le même boulot.
C'est quelqu'un de brillant quoi qu'il en soit. Il touche du doigt la sélection espagnole qui est peut-être le Graal pour lui. Il finalement arrête avant d'avoir commencé et il touche du doigt le Real de Madrid qui est d'ailleurs lié et qui est peut-être l'institution la plus forte, la plus rêvée pour un entraîneur. et ça se passe mal. Je sais pas comment ce garçon pourra se remettre de ces deux désillusions.
Reste avec nous Fred, puisque c'est la fin de la Q2. On retourne du côté d'Austin au Texas, Grand Prix des États-Unis, Lucas Vinoy, Adrien Tambay, fin de la Q2 donc hein.
C'est ça, il reste 2 minutes. C'est Kimi Raikkonen qui a signé le meilleur temps devant Vettel, Hamilton, Bottas, Ricciardo. Adrien, on peut déjà voir qu'il y a des stratégies différentes. Vettel, Hamilton et Bottas notamment ont réalisé leur meilleur temps avec des pneus super tendres, alors que Kimi Raikkonen a réalisé son meilleur temps en ultra tendre.
Oui, il va falloir vérifier maintenant Lucas dans cette deuxième tentative si ces pilotes là qui se sont élancés pour la première avec les super soft vont améliorer avec les ultra soft. Si c'est le cas, ils devront s'élancer avec ce type de pneus. Pour l'instant, il y avait pas mal d'écart avec le 11e sur la liste des temps. Plus d'une seconde par rapport à Lewis Hamilton, par exemple. Donc, il est assez en sécurité, Lewis Hamilton, pour aller en Q3, même avec ce type de pneumatique moins performant. Mais sait-on jamais. En tout cas, ce qui est étrange, c'est que Lewis Hamilton a fait 11 tours pour l'instant et sur le même train de pneus. Donc, je ne pense pas qu'il s'élancera avec ce train de pneus super soft et qu'il va améliorer maintenant avec ultra soft sur la deuxième tentative.
En effet, c'est assez considérable. Lewis Hamilton, qu'on n'a pas vu à la fête depuis en tout cas le début de cette qualification, qui a commis plusieurs erreurs, qui est sorti large. On a entendu d'ailleurs son ingénieur de piste, Peter Bonington, lui dire qu'il ne fallait pas aller trop large, puisque c'est peut-être la raison pour laquelle Max Verstappen a endommagé sa voiture tout à l'heure, Adrien.
Oui, sûrement, hein, sur ce tracé, on voit les pilotes exploiter toute la piste, voire plus. Quand on leur en donne, les pilotes prennent encore plus. En tout cas, ils exploitent au maximum. Et on a vu effectivement Verstappen qui a hypothéqué toutes ses chances. Et on a déjà les deux Toro Rosso, Gasly, Hartley, qui vont partir du fond de la grille suite à des pénalités. Et Max Verstappen qui n'a pas pu s'élancer en Q2. Donc pour l'instant, le suspense, c'est par rapport aux deux Renault et à la Haas de Kevin Magnussen pour l'entrée en Q3.
Pour l'instant, Charles Leclerc est en 6e position et virtuellement qualifié pour cette Q3, tout comme Romain Grosjean est 7e, Esteban Ocon 9e. Mais attention, tous les pilotes, ou presque, sont en amélioration. Kevin Magnussen, qui est 12e, vient d'améliorer. Il est en avance sur Nico Hülkenberg, qui est 12e. 35 millièmes d'avance, c'est très serré pour le pilote danois, Esteban Ocon, lui qui vraisemblablement ne va pas améliorer son temps. Et c'est un petit peu lent, Adrien, dans le deuxième secteur.
Oui, un peu lent. Il s'est loupé, Esteban, dans le deuxième secteur. On va voir si dans le troisième, il arrive à rétablir les choses et améliorer. En tout cas, pour l'instant, il est encore 9e. Il est pas loin d'être sur la bulle, mais ça devrait le faire pour Esteban. Et on peut aussi remarquer que Daniel Ricciardo est le seul pilote à être resté avec les super soft, et il va s'élancer avec les super soft demain, le pilote australien. Donc c'est une stratégie différente des autres. On va voir si Vettel, Hamilton et Bottas finissent leur tour et améliorent avec ce train de pneumatique ultra soft.
En tout cas, pour l'instant, ça passe pour Romain Grosjean, 7e, Esteban Ocon, 8e, qui a réussi, malgré son erreur, dans le deuxième secteur, à améliorer son temps à 1,6 seconde de Lewis Hamilton. Charles Leclerc qui est en train de terminer son tour. Il est à la 6e place, Charles Leclerc, pour l'instant virtuellement qualifié. Il a amélioré dans le premier secteur, un petit peu moins bien dans le deuxième. Il va croiser la ligne dans quelques instants. Charles Leclerc, il améliore, Charles Leclerc. 1,371 seconde de Kimi Raikkonen. Ça va passer pour le pilote monégasque de Sauber, Sergio Perez, qui croise la ligne, lui, à l'instant. Instant même, 9e Sergio Perez, derrière Carlos Sainz qui va essayer de lui chipper cette place. Non, Carlos Sainz sera 11e. Sébastien Vettel est en train de terminer son tour. Il a amélioré dans le deuxième secteur. Va-t-il s'arrêter ou améliorer? Non, Vettel qui a complètement ralenti, Adrien, oui, pour ne pas avoir à s'élancer avec les pneus ultra tendres.
Donc il va partir effectivement avec les pneumatiques super soft. Et pareil pour Lewis Hamilton, qui a perdu pas mal de temps exprès dans le dernier secteur. Voilà, donc tous les hommes de tête, à part Kimi Raikkonen, vont s'élancer avec les pneumatiques les moins tendres. Enfin, en tout cas, les ceux qui sont au milieu des trois gommes proposées.
En tout cas, ça passe pour Charles Leclerc, Romain Grosjean et Esteban Ocon. Élimination de Pierre Gasly. Les éliminés, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Gasly, Brandon Hartley et Max Verstappen. La Q3 dans quelques instants, Nico.
Merci beaucoup, Lucas et Adrien. Fred Hermel, pour terminer sur l'Espagne, très vite, pour terminer notamment avec le cas Lopetegui. Alors, tu nous disais qu'il y a déjà deux noms qui sont annoncés là, qui filtrent du côté de l'Espagne. On parle donc d'Antonio Conte et Leonardo Jardim. Ce serait énorme de voir Jardim au Real Madrid quand même, les gars.
Oui, mais parce que en fait, Leonardo Jardim faisait partie d'une liste, parce que le Real avait consulté plusieurs personnes extérieures après le départ de Zidane, un peu pour avoir un peu le profil de l'entraîneur qui pourrait être intéressant pour ce club, et Jardim était plutôt bien placé. C'est quelqu'un qui plaît, sa bonne gestion d'un vestiaire, son bon sens tactique, voilà, ça fait partie de. Mais après, vous savez, le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que à part ces deux noms-là, comme gros entraîneurs européens, il n'y en a pas d'autres de libres. pas des grands noms.
Ah, c'est vrai qu'en plus à cette période de la saison, ça va être compliqué d'aller trouver quelqu'un.
Ouais. Donc voilà, donc c'est la situation du Real est très très compliquée.
Arsène Wenger.
Alors Arsène, c'est intéressant ce que tu dis, mais Arsène Wenger, et même si lui dit qu'il a encore envie d'entraîner, a été à deux reprises, mais à deux doigts de signer au Real Madrid.
Ouais, il l'a dit d'ailleurs récemment, il a encore
rêvé. Mais là, il veut retourner sur le terrain.
Ouais, mais sauf que Florentino Pérez, il lui a fait faux bond deux ou trois fois. Voilà.
Dans la situation où il est notre ami Pérez.
Ouais, enfin, mais
ça chauffe là.
Mais à l'époque, il voulait Wenger pour construire un grand entraîneur qui serait aussi responsable du centre de formation. Voilà, il y avait un projet à long terme. On peut pas dire que Wenger aujourd'hui ce soit quelqu'un pour filer un coup de main comme ça. Ça serait très. Après, on sait jamais. Hein. Moi, j'ai vu tellement de choses au cours de ma carrière, mais ça semblerait quand même un peu compliqué, quoi. Moi, je pense que Jardim et Conte ont beaucoup plus de chances aujourd'hui d'être entraîneur du Real Madrid. Pas dans les prochaines heures, mais il faudra voir après le match au Camp Nou.
Il y a pas un coach espagnol, Fred, là, qui monte en ce moment.
Si, Michel, qui est toujours là. L'éternel Michel.
Ouais, mais Michel, non,
mais. Ah, mais il est très apprécié au Real Madrid, hein, donc.
Oui, non, je sais qu'il est apprécié, mais bon, il a jamais eu de super, super résultats, Michel. En tant que coach.
Olympiakos, si.
Olympiakos, ouais, mais bon.
Que l'Olympiakos, parce que.
Ouais, bien sûr.
Non, mais
surtout, c'est quelqu'un de Michel.
C'est surtout une légende, lui, au Real.
Ah, c'est une légende du Real, quoi. Il connaît cette maison-là comme sa poche. Voilà, après, on est dans une situation où, de toute façon, je vais pas dire que la saison est foutue parce que avec de tels joueurs on ne sait jamais. Mais là on est quand même sur une saison qui pourrait être blanche, qui va sûrement être blanche, et que tout l'argent que le club n'a pas sorti cet été, la révolution qui a pas été faite dans le vestiaire parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, faut pas l'oublier, et ben elle sera faite la saison prochaine, quoi.
OK. Merci Fred, en tout cas, bonne soirée, à demain.
Enfin non, à Justicos.
Lundi, voilà, tu prépares tout ça, tu nous prépares ça
pour le mais demain, tu sais, on sait jamais, peut-être qu'on se parlera demain,
hein. Ah, pour le nouvel entraîneur du Real, effectivement.
Ah ben on sait jamais. Dopetegui est pas viré à minuit moins le quart. Je sais pas comment ça sera demain vers 17h, hein.
Eh ben, on verra ça. Merci Fred.
Adios.
Ciao, Fredo. Tiens, un petit sondage sur le compte Twitter de l'After. Jardim au Real, nom qui circule déjà à Madrid en cas de limogeage de Jardim. Bonne ou mauvaise idée? Vous êtes 74% à répondre que c'est une bonne idée pour le Real Madrid. Voilà, c'est une belle image, hein. En France, en tout cas, Leonardo Jardim, mais ça, on le savait. Dans quelques instants, on sera avec Julien Laurence, parce qu'il y avait notamment un gros choc en Angleterre cet après-midi. Un match entre Chelsea et Manchester United, et c'est parti en sucette totale! Et Julien Laurence va nous expliquer ça dans quelques instants. Et puis il y aura la Q3 également du Grand Prix des États-Unis avec Lucas Vinoy et Adrien Tambay, le Grand Prix des Amériques. À tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Ludovic Obraniak et d'Ali Benarabia. On sera avec Lucas Vinoy et Adrien Tambay dans quelques instants. Grand Prix des États-Unis à Austin avec la Q3 qui va débuter dans quelques secondes maintenant. On va accueillir Julien Laurence pour l'Angleterre. Bonsoir Julien. Et là Julien? Julien Laurence? Julien? Il n'est pas là? Ah, il va revenir, il a un petit problème technique. Alors si Julien est là, c'est parce qu'il y avait un gros choc en Angleterre cet après-midi, match que vous avez très certainement suivi sur RMC Sport. Chelsea face à Manchester United, 2-2 entre les deux équipes. Rudiger a marqué le premier, égalisation de Martial en seconde période, Martial qui donne l'avantage à Manchester United, et alors dans le temps additionnel, dans la 6e minute des arrêts de jeu, c'est Barkley qui permet aux Blues d'égaliser. 2-2 entre les deux équipes. Donc, il a décidément beaucoup de mal, hein, José Mourinho, lorsqu'il visite Stamford Bridge, son ancien club. Match marqué également par une embrouille en fin de match. Tu l'as vu toi le match, je crois d'ailleurs, Ali. Ouais, et il y a l'un des adjoints de Sarri, Yanni, qui après le but égalisateur passe devant José Mourinho et va le chambrer. Alors il le voit pas trop Mourinho d'abord.
Il le voit pas du tout.
Mais... il repasse devant et là il doit lui dire un truc. Oh, Mourinho se lève, furax, et puis il va pour en découdre visiblement. Et finalement ils ont été séparés, mais c'est parti en sucette.
Parce qu'en fait on voit Sarri sortir du bain et être content devant Mourinho, mais qui regarde le match, hein, Sarri. Et puis d'un coup derrière t'as l'adjoint
Yanni, ouais,
qui arrive en courant et qui va devant Mourinho et qui fait comme ça là,
avec
le poing, mais Mourinho ne le voit pas, il est encore à regarder un peu quand on regarde le match. Et au retour, quand il fait l'aller, et quand il revient, l'adjoint, là par contre, il s'approche carrément devant Mourinho pour qu'il le voit bien, et il lui a dit quelque chose en italien, ou je sais pas quoi, de toute façon. Mais et là, Mourinho, il s'est levé comme une furie.
Bizarrement que, en conférence de presse, Sarri avait plutôt été élogieux à l'égard de
Jorginho. C'est pas lui, c'est son adjoint. Hein. D'ailleurs, Sarri, alors, Sarri s'est excusé.
Sarri s'est excusé.
Et Mourinho a expliqué qu'il avait accepté les excuses. Julien Laurence est là, salut Julien.
Salut à tous.
Salut Julien.
Eh, quelle histoire. Et quel match, et alors, quel show à la fin?
Ouais, exactement. On était resté un peu sur notre fin lors du dernier choc qu'on avait eu en première ligue, le City Liverpool.
Ah ouais. C'est chiant.
Ouais, qui nous avait vraiment pas vraiment plu, c'était très tactique, etc. Là, en revanche, on a eu vraiment un super match entre la première mi-temps très maîtrisée, très contrôlée, très dominée par Chelsea avec ce but de Rudiger. Ils auraient facilement pu même entrer à la pause menant 2-3-0. De l'autre côté, à Manchester United, il n'y avait rien eu du tout dans cette première période. Lukaku a touché 9 ballons dans les 45 premières minutes, ce qui est quand même ridicule. Et puis en deuxième période, le premier but de Martial change vraiment toute la physionomie de cette seconde période, surtout de ce match. Je sais toujours pas ce que Marcos Alonso faisait par terre à simuler sur ce but de Martial. C'est assez incroyable de voir ce qu'Alonso a fait. Et puis après, quand on pense que United, qui a un record à Stamford Bridge qui était assez pitoyable avant aujourd'hui, puisqu'il avait gagné qu'une seule fois lors de leurs 16 dernières visites dans le stade de Chelsea, on se pensait, bah voilà, pour la première fois depuis 2002-2003, ils vont gagner au Bridge. Et finalement, Ross Barkley à la fin vient arracher ce point du match nul pour Chelsea.
Et dis-moi, on en sait un peu plus alors de ce qui s'est dit là, lorsqu'il y a eu la fameuse embrouille entre Mourinho et Yanni, l'adjoint de Sarri, ou pas?
Non, alors on n'arrive toujours pas à savoir ce qu'ils se sont dit exactement, plutôt ce que Yanni a crié à l'encontre de José Mourinho, en tout cas du banc de United. Mais c'est assez bizarre parce qu'effectivement, comme l'a dit Ludo, Sarri avait été très élogieux envers Mourinho. Mourinho lui-même, lors de sa conférence de presse, avait dit si nous on marque, je ferai pas des trucs de fou.
Pas, ouais.
Voilà, il avait aussi dit c'est un match comme les autres pour moi, ce qui était un petit peu bizarre quand même parce que Chelsea quand même représente beaucoup pour lui, mais il avait voulu la jouer assez calme, assez tranquille. Et puis là, cette fin de match assez incroyable avec ce but à la 96e, et puis effectivement la réaction du banc de touche de Chelsea, même si Sarri était complètement à part, il y avait de quoi péter les plombs pour Mourinho. Quand tu penses que tu vas gagner un match aussi important dans la situation dans laquelle et Mourinho et Manchester United sont actuellement, c'est deux points qui pourraient coûter très très cher et à Mourinho et à United
Ils ont un calendrier de taré là qui les attend. Là ils jouent la Juve en Ligue des Champions et puis derrière ils vont enchaîner en plus. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis on l'a dit avant le match d'aujourd'hui, c'est des matchs cruciaux qui arrivent maintenant vu la pression sous laquelle Mourinho se trouve actuellement, toujours hein, malgré la victoire contre Newcastle il y a 15 jours avant la trêve internationale. Ça pourrait très très vite devenir encore plus compliqué. Ils sont aujourd'hui 9e au classement, ils sont très très loin de City et de Liverpool, et si Arsenal gagne lundi et rejoint Tottenham à la 3e place du classement, ils seraient aussi très loin des 4 premiers en fait. Et là ça commencerait vraiment à faire beaucoup pour Mourinho.
Alors parlons de Manchester City aussi. City qui s'est baladé, hein. Ça a été facile hein, face à Burnley. C'est bizarre à dire là aussi, mais c'est presque devenu là aussi un match chiant, tant City a dominé Burnley quoi.
Ouais, alors on se demandait est-ce que la défense de Burnley, même à l'Etihad, pourrait résister, combien de temps ils résisteraient. Ils ont pas résisté longtemps, ils ont vite explosé, même s'il y avait 1-0 à la pause. Après ils ont quand même déroulé, c'est étonnant de facilité. Bernardo Silva, David Silva, Kevin De Bruyne qui a fait son entrée en deuxième période, qui après sa blessure retrouve petit à petit son niveau physique et va très bientôt postuler pour un poste de titulaire dans cette équipe. Et c'est vrai que tu te rends compte que ils ont tellement un effectif de telle qualité, de telle quantité aussi, que même l'absence de Kevin De Bruyne finalement
on l'a pas senti.
Elle est passée comme une lettre. Voilà, exactement.
Ça, et c'est dingue quand même.
Là, c'était que Burnley, mais c'était quand même assez impressionnant.
Il est bien rentré sur une ou deux actions là, Kevin De Bruyne.
Ouais.
Non mais c'est dingue de tu dire que Julien a raison. C'est-à-dire c'est ce mec était quand même le meilleur passeur de la saison dernière en Premier League. C'est quand même un joueur assez magnifique. Il a pas été là pendant des semaines et on l'a même pas senti quoi.
Oui, pourquoi?
Parce alors peut-être en Ligue des Champions, mais
non, la différence c'est que Manchester City,
et encore,
en plus d'avoir gardé ses effectifs et ses meilleurs joueurs, elle en a rajouté une couche avec de bons joueurs et elle a mis les moyens. Donc même si Kevin De Bruyne en début de saison n'est pas là, ça se ressentira pas autant que ça, et tu peux enlever ne serait-ce qu'une pièce là-dedans. Ça marchera toujours. Après, un Champions League, il te faudra tout le monde au top. Et là, ça sera différent au moment des matchs aller-retour à élimination.
Non, mais Kevin De Bruyne, forcément, est un élément majeur de l'équipe de Guardiola. Après, vu la qualité de l'effectif actuel et vu l'opposition qu'il y avait en face cet après-midi, ben, son absence n'est pas préjudiciable. c'est comme le dit Ali, c'est Kevin De Bruyne, c'est un homme qui est rayonnant dans les grands rendez-vous. Or là, contre Burnley à domicile, une équipe qui peut poser problème parfois à domicile, Burnley, mais qui à l'extérieur explose souvent. Bon voilà, ça a été une partie de plaisir et tu aurais pu mettre l'un comme l'autre, ça aurait pas changé grand-chose.
Match alors qui était riche en émotions. Là aussi, c'était Huddersfield Liverpool. Alors parce qu'il y avait face à face deux potes, c'est-à-dire Wagner, le manager des Terriers, et Jurgen Klopp, le manager des Reds. Victoire 1-0 de Liverpool. Salah a marqué. Alors mine 2, c'est une victoire qui est importante, Julien, parce qu'ils étaient sur une pente glissante, hein, les joueurs de Liverpool. Là, ça allait pas très fort, hein, pour Jurgen Klopp. Hein.
Ouais, effectivement, on se rappelle de la défaite à Naples, notamment en Ligue des Champions, et on en avait parlé d'ailleurs, hein, que cette équipe de Liverpool était un petit peu poussive en ce moment, que c'était pas la fluidité qu'on avait pu voir la saison dernière. Il y avait eu le match nul contre Manchester City qui avait été assez décevant quand même si un match nul contre City, même à domicile, c'est pas forcément une mauvaise opération, mais il y a eu cette défaite à Naples, il y a eu le match nul à Chelsea qu'ils avaient arraché à la dernière minute avec le but magnifique de Sturridge. Donc voilà, c'était pas un ça dans le rythme, c'était toujours pas ça aujourd'hui, mais il y a cette victoire et je pense que Klopp, ça lui a fait très plaisir de gagner en jouant pas forcément très bien, parce que Huddersfield par exemple a touché le poteau, s'est créé des bonnes occasions, je crois ils ont plus tiré au but même que Liverpool dans cette rencontre, mais au final tu prends les 3 points et peut-être que la saison dernière, c'est un match qu'ils auraient pas gagné, Liverpool, ils auraient fait un match nul à l'extérieur comme ça a pu leur arriver, et ben là la satisfaction pour Klopp, c'était d'avoir réussi à empocher les 3 points même sans jouer très très bien, avec un match de Ligue des Champions qui est déjà très important pour eux contre l'Étoile Rouge de Belgrade qui arrive cette semaine, la semaine prochaine.
Ok, bah écoute, voilà, victoire importante, donc 1-0 pour Liverpool. Merci beaucoup Julien, on se retrouve lundi nous.
Merci.
Aussi.
Ouais, avec plaisir.
Dans l'after avec les rôles de dames. Salut, bonne soirée Julien. Je donne une petite info également. Alors sachez ça, c'est très important. Le Média FC, qui restait sur une défaite la semaine dernière face à Chennevières, a réalisé un match incroyable ce matin. Ils étaient menés 4-0 après 20 minutes de jeu face aux Avocats. Mais notre équipe a réalisé une incroyable remontada. Succès 6-4 pour la formation de notre président taulier Cador, Gilbert Bribois, avec des buts de Jules Véric, Oussem Loussaïef, Benoît Boutron, Valentin, doublé de Momo Boafsi pour terminer également. Toutes les infos, les analyses, les réactions, les coulisses sont à retrouver sur ifk.world et c'est assuré par le compte Twitter Cop Bala. Voilà, sachez.
Ah, dès que je rentre, je vais checker.
IKF, hein. IKF.world, hein. J'ai dit IFK, c'est IKF, hein. Il y a JFK, c'est un aéroport, c'est un aéroport.
Ouais, j'ai un KFC. Ouais.
Merci beaucoup, en tout cas, Adrien. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Ali Benarbia.
Plaisir.
Merci, Ludovic Obraniak.
Merci, bonsoir.
Voilà. Et on se retrouve demain, Adrien, parce qu'on sera ensemble, d'ailleurs, demain, pendant
bien
le Grand Prix.
Bien sûr, 20h.
Oh, les gars, vous allez me régaler, je le sens. Je vais réviser ma F1. Autant content. Te dire que je pars de très, très loin. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour l'after, bien entendu. Et il y aura le Grand Prix de F1 demain à partir de 20h sur RMC, bien entendu. On sera ensemble de 20h à minuit. Et même avant, vous le savez. Bonne soirée.
RMC Football Show, l'After Foot.